La vie comme elle va. La vie comme elle va, Francesca Piolo, bonjour. Cette émission est réalisée par Véronique Villa, comme d'habitude, à la technique Alexandre Dang, et aujourd'hui, au programme, la philosophie peut-elle guérir ? Je jure par Apollon médecin, par Esculape, par Hygie et Panacée, par tous les dieux et toutes les déesses. Ainsi commence le serment d'Hippocrate qui engage les médecins qui le prononcent. Il les engage envers leur maître et envers les enfants de ceux-ci à une solidarité absolue. Il les engage envers les malades à chercher toujours leur bien, c'est-à-dire à sauvegarder la vie actuelle, pas de poison, et la vie à venir, pas d'avortement, à respecter leur personne, pas d'abus sexuels, et leur intimité, sinon par le secret, du moins par la discrétion. Et par quel serment et quel secret sont tenus nos amis les philosophes, eux qui s'occupent en principe de la bonne santé de nos âmes ? Diagnostic et ordonnance jusqu'à 16h30 avec notre invité philosophe Wackernagel Wolfgang.
C'est fini, la sourdine, je rue dans les brancards. Je suis Léopoldine, la sœur de Mozart. Et comme la renommée n'est pas un boomerang, je n'aurais pas dû le laisser signer Wolfgang.
Wolfgang Wackernagel, voilà, c'était un petit clin d'œil pour vous accueillir.
Bonjour Francesca.
Bonjour. Un petit clin d'œil parce que c'est pour se prémunir un peu, justement pour prendre une sorte de potion, un peu de gaieté avant cet automne qui va nous tomber dessus, puisque nous sommes le premier jour de l'automne aujourd'hui. Hein, on va aller vers le déclin de la lumière et de la mélancolie, non ? Pas pour vous, pas du côté de la Suisse allemande.
Ben, c'est-à-dire que la lumière, elle est aussi intérieure, et c'est bien ça l'enjeu de la philosophie, c'est amener de la lumière là où il y a des ténèbres, et même les jours où c'est gris, voir que quelque part au fond de l'âme, il y a une étincelle de bonheur.
Mais c'est vous, quelle ambition pour la philosophie. Alors la littérature, vous lisez les textes en allemand.
Je lis
les textes
surtout
des philosophes et en anglais.
Oui, surtout des textes, j'ai grandi comme trilingue, ma langue maternelle c'est l'allemand. J'écris surtout ou exclusivement en français. Disons même que désormais, j'écrirai qu'en français. Mais je lis beaucoup en allemand et en anglais. Et puis, c'est peut-être ça qui fait mon originalité. Donc, elle n'est pas due au fait que... Simplement que je suis en contact avec d'autres espaces culturels.
Quand vous avez proposé comme thème, Wolfgang Wackernagel, la philosophie est-elle malade ? Je me suis dit, dans le fond, on peut l'entendre de deux façons. C'est-à-dire, la philosophie ne va pas bien.
D'une certaine manière, oui, c'est une question très provocante, effectivement, mais elle a un fond de vérité, parce que si on pose cette question très insolente, qui m'accompagne depuis 17 ans, hein, j'ai encore pas écrit, enfin, j'ai quelques notes à ce sujet-là, j'ai des notes de cours, puisque j'ai donné un cours il y a 12 ans, et j'ai déjà une fois fait un essai d'émission, enfin une émission même assez approfondie en Suisse avec Serge Margel, mais c'est un sujet qui dépasse largement ma compétence reconnue, puisque je suis un spécialiste de Maître Eckhart. Cependant, il y a un lien dès le début, c'est-à-dire qu'au moment d'écrire ma thèse, j'ai rencontré le fondateur des cabinets de consultation philosophique en Allemagne, et ça avait fait pas mal de tapage dans les médias, et je me suis beaucoup intéressé à son approche qui consistait à donner des consultations philosophiques, un peu comme on donne des consultations médicales ou psychanalytiques.
Ah oui, mais la question que je vous pose, Wolfgang Wackernagel, c'est, vous dites, la question à laquelle vous répondez, c'est « la philosophie peut-elle guérir les maux dont nous souffrons ?» Et moi, je vous demande si elle est malade, parce que vous dites « la philosophie peut-elle guérir ?» Ça veut dire que, est-ce qu'elle, elle est souffrante ?
Dans la mesure où elle guérit plus, il se peut qu'elle soit malade. De quoi serait-elle malade ? Peut-être d'un excès de rationalisme. Il faut, je crois, revenir au sens premier de la philosophie pour comprendre au fond ce qui a changé. Parce qu'effectivement, en tout cas il y a quelque temps encore, je me suis dit que à cette question, la philosophie peut-elle guérir ? La plupart des philosophes sérieux, je veux dire universitaires, répondraient que non, en tout cas au XXe siècle, qui est révolu. Et ils répondraient que non parce que le cercle de la philosophie aujourd'hui est nettement plus restreint que ce qu'il était autrefois, a fortiori chez les présocratiques. Quand on voit par exemple Diels, l'éditeur, donc les fragments de présocratiques, la fameuse édition Diels-Kranz, il explique bien ça, que le sens de la philosophie était extrêmement vaste. Donc avant Socrate déjà, puisqu'on parle de présocratique, Socrate a introduit cette idée très humble et en même temps géniale de philosophie, très inconfortable d'ailleurs. C'est ça qui à la fois fascine et agace et qui fait qu'on n'en aura jamais fini avec la philosophie.
La philosophie curative.
Philosophie curative et aussi le sens simplement de ce qu'est la philosophie, il faut quand même le rappeler, amour de la sagesse. Il y a dans le premier mot, il y a l'émotion, c'est pas la rationalité, il y a l'émotion.
Elle doit être l'amour malade alors, c'est de l'amour Sophie. De la sagesse.
Oui, on peut être malade d'amour. Et vous avez très raison de dire, d'une part, il faut se poser la question si la philosophie est malade, peut-être qu'elle l'est d'une certaine manière, mais il y a quand même toujours des gens qui essaient de la redresser. C'est une question légitime à laquelle je préfère ne pas répondre entièrement, du moins au début de l'émission. On va peut-être voir ça à la fin. Je vais quand même pas prétendre être le médecin qui va guérir la philosophie. Et ensuite, on peut aussi se demander si la philosophie elle-même guérit, ou comme vous avez dit, puisque l'amour peut guérir et rendre malade, si la philosophie peut peut-être pas aussi rendre malade.
Oui, mais vous dites,
il faut une prudence.
La philosophie peut-elle guérir ? Mais alors, quels sont les maux dont nous souffrons, à votre avis, docteur Vakernagel ?
Docteur en philosophie qui soigne les lettres avant tout. Je me suis intéressé à la médecine, mais je ne l'ai pas approfondi. C'est de la raison pour laquelle j'ai toujours laissé reposer ce sujet. Mais ça m'a toujours travaillé de voir combien, en fait, la philosophie est enfantée par la médecine, et peut-être des fois l'inverse. Donc dans l'Antiquité, je le rappelle très concrètement, Empédocle était fils d'un Asclépiade, un peu comme beaucoup de philosophes aujourd'hui étaient fils de prêtres, pas de prêtres, mais de pasteurs, c'est le cas de Jean-Paul Sartre. Donc effectivement, il y a un lien entre les deux, et ce lien s'est peut-être grandement perdu en raison de l'énorme spécialisation des sciences objectives, des technosciences. Au fond, les médecins n'ont plus le temps de philosopher, et les philosophes sont déconnectés par rapport aux acquis énormes de la science actuelle. Donc recréer un lien entre l'amour de la sagesse, donc la pensée et la vie, est un travail à recommencer continuellement. Et si ce lien se perd, la philosophie est effectivement malade.
Moi je remarque qu'on reçoit de plus en plus quand même de psychiatres qui sont philosophes ici. Plus en plus, il y a cette tentative des psychiatres pour faire des thèses sur Plotin, sur Platon, pour retourner à la philosophie.
J'apprécie beaucoup cet esprit de complémentarité. Je dirais qu'en fait, la situation est telle qu'il y a trois visages du consultant de l'âme. La réalité actuelle, c'est bien celle-là. Vous aviez au Moyen-Âge exclusivement le prêtre, le confessionnal, qui est quand même une sorte de, Freud a remis à jour le confessionnal, c'est une modernisation du principe, mais le fait de confesser ses péchés, d'avoir une absolution, quel soulagement pour l'âme. Peut-être c'était pas parfait, donc ça a évolué, les temps changent, il faut toujours remettre à jour les choses. Ensuite, vous aviez le psychothérapeute, actuellement il y a au moins 50 différentes techniques de psychothérapie, je peux pas toutes les énoncer, et vous avez depuis les années 90, un retour de la philosophie avec même une société internationale de consultation philosophique qui a vu le jour en Allemagne, mais qui existe dans les pays nordiques, en Amérique et aussi en Israël. Curieusement, en France, on a moins, le développement est moindre, mais il y a différentes raisons à cela. Je pourrais peut-être revenir là-dessus après.
La médecine guérit les maladies du corps, tandis que la sagesse délivre des passions de l'âme. Démocrite.
Là, on a bien séparé le corps et l'âme. Il y a deux fonctions bien distinctes.
C'est une intuition très ancienne, déjà puisqu'elle remonte à Démocrite, 5e siècle avant Jésus-Christ, avant notre ère. Et cette phrase résume en fait déjà tout, quasiment tout, des enjeux du rapport et aussi de la différence entre philosophie et médecine. Le terme de médecine, déjà là, c'est iatriké. La médecine, pour les Grecs, c'est techné iatriké, la technique de la médecine, l'art de la médecine, parce que techné a le double sens, comme on sait. Il y a ce mot aphairetai qui m'intéresse beaucoup, parce que l'aphairesis, c'est l'abstraction, le fait d'enlever. Il y a beaucoup cette idée d'abstraction importante dans tout le platonisme, l'Empire romain tardif, et puis aussi chez Maître Eckhart, sous un autre sens. Donc c'est là où ce terme m'a tout de suite intéressé quand j'ai vu ce fragment. Et alors le terme aussi pour les passions de l'âme, c'est psychen paton. Tout y est déjà dans ce fragment. Les fragments, souvent, c'est magnifique, c'est elliptique, c'est compact. Et en même temps, tout l'enjeu est expliqué, en fait, dans cette brève sentence. Il faut aussi dire que Démocrite est considéré comme un des pères de l'atomisme, donc du matérialisme. Et dans sa lignée, on a Épicure et Lucrèce. Or, justement, il s'agit quand même d'essayer d'être un peu objectif, parce que je peux quand même pas, ce que j'ai fait cette fois, dire comme ça, me promener dans la rue et dire « Bonjour monsieur, bonjour madame, est-ce que vous pensez que la philosophie peut guérir ?» Alors, on peut faire un sondage. Je l'ai fait un peu, même auprès de médecins, et ils disent oui, dans une certaine mesure. À ma surprise, ils disent oui, effectivement. Ça dépend comment on l'entend, ça dépend quelle philosophie, et ça dépend dans quelle mesure, mais peut-être qu'effectivement, l'attitude intérieure, peut-être aussi l'effet placebo, on peut en parler. Oui, oui. Peut-être quelque chose qui va dans ce sens. Mais il s'agit peut-être d'abord aussi, pour être exact et précis, de se poser la question, est-ce que dans l'Antiquité, puisqu'on commence dans l'Antiquité, des gens ont effectivement affirmé avoir été guéris par la philosophie?
Avant, je voudrais revenir sur un point que vous avez commencé à développer, Wolfgang Wackernagel. Vous dites que la philosophie, du moins une certaine approche de la philosophie, effectivement, et c'est un complément salutaire aux médecines modernes. Et vous dites tout cela, c'est un peu dans ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les consultations philosophiques, les cabinets de consultations philosophiques qui ont bien pris en Allemagne, mais qui n'en ont pas pris en France. Je dirais pourquoi.
Alors, vous me reprenez, effectivement. Il y a peut-être différentes raisons, j'en ai parlé aussi avec des amis.
Oui.
L'une d'elles, c'est peut-être justement parce que la France a une bonne culture philosophique.
Les Allemands aussi.
Oui, mais à l'école, je ne crois pas que dans toutes les écoles allemandes, on fait un bac philo. Et donc, les gens se disent, puisque j'ai fait un bac philo, je n'ai peut-être pas forcément besoin d'aller prendre des consultations payantes pour voir ce qu'il en est. Par contre, une personne donc qui a fondé les cafés philosophiques, Marc Sautet, est tombée sur ce problème. Il a ouvert un cabinet de consultation et ça a donné en France quelque chose qui est très dans l'esprit français avec Jean-Paul Sartre, le café Flore, les deux magots et tout ça. À la radio, une fois, il a parlé de son cabinet, on lui a reproché que ce soit payant, pourquoi est-ce qu'il fait pas ça gratuitement? Il dit, si vous voulez avoir gratuitement, vous venez au café le dimanche, au café des phares. Et c'est comme ça que les cafés philosophiques sont nés, qui ont toujours un succès énorme. Actuellement, rien qu'en Suisse, en Suisse romande, cette année, il y a eu deux festivals ou colloques ou journées philosophiques avec des cafés. Donc imaginez, même concurrents, mais enfin, de toute façon, plus il y en a, mieux ça vaut.
Mais le café, c'est une chose, mais la consultation philosophique, c'est un peu autre chose.
Ça, c'est
chose,
certain.
Hein.
Et ça n'a pas pris en France.
Non, pas du tout.
Et d'ailleurs, moi-même, j'ai jamais beaucoup tenu à en donner. On m'a demandé si j'en avais donné à titre expérimental, oui, et une payante. Mais bon, c'était un ami d'un ami et c'était un problème très précis. Et ça fait 3 séances. Donc le principe de la consultation philosophique, pour vous dire, ça ne dure pas 10 ans. Plus vite c'est fait, mieux c'est, parce qu'il s'agit de rendre l'autonomie à celui qui n'est d'ailleurs pas votre patient. C'est quelqu'un qui vient, qui a peut-être un problème, qui en souffre, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est un malade. C'est simplement qu'il a besoin d'une objectivation pour une certaine situation. Alors ça, c'est peut-être pas dans les mœurs culturelles de la France.
Alors vous dites que dans l'Antiquité, on pouvait trouver ce souci curatif d'une philosophie comme ça, un petit peu médicament, en quelque sorte. Si on regarde l'histoire de la philosophie, Pierre Hadot dit « Philosopher à cette époque-là, c'est choisir une école, se convertir à son mode de vie et accepter ses dogmes. » Dans l'éloge de la philosophie antique, sa conférence du Collège de France. Mais c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que parce qu'on choisit un mode de vie, qu'on se convertit à la philosophie, dans le fond, vous êtes soigné.
Oui, c'est ça. Je dois énormément à Pierre Hadot. Alors, je ne puis que me réjouir que vous le citiez. En même temps, en fait, que ces cabinets de consultation philosophique, je me rappelle avoir lu, découvert Exercice spirituel et philosophie antique.
Ouais.
Et pour moi, c'est un des meilleurs livres qui a été publié dans cette décade, vraiment. Et qui, en tout cas, pour moi, a eu un effet immense parce qu'il a confirmé tout ça.
Mais alors, justement, Wolfgang Wackernagel, vous dites, la philosophie, elle semble renouer avec une sorte de vie quotidienne, de vie pratique, dans ses consultations, dans ses cafés philosophie, dans ce goût de la philosophie aujourd'hui. Or, Pierre Hadot, quand il parle de la philosophie antique, il dit c'est un acte de conversion. Il dit le cogito cartésien, amor intellectualis de Spinoza, l'intuition bergsonienne, par exemple, de la durée. Et tout ça, c'est de la conversion philosophique et ça commence par un arrachement et une rupture par rapport au quotidien, justement, par rapport au familier, dans le côté faussement naturel du sens commun. C'est un retour, dit-il, à l'originel, à l'original, c'est un retour à l'authentique, à l'intériorité et à l'essentiel. Voilà, pour reprendre rapidement Hadot, c'est-à-dire on a l'impression qu'on est dans une démarche contraire.
Oui, vous avez raison de le dire, il y a peut-être deux mouvements et Hadot met l'accent sur l'autre mouvement. Parce qu'il y a toujours un mouvement, il faut prendre le recul.
Oui, c'est un arrachement.
Et effectivement, le premier acte, en ce sens, c'est juste le premier acte philosophique, c'est l'arrachement, c'est prendre distance. Mais après, il ne faut pas rester ni au fond de la caverne, donc on s'arrache, pour prendre la métaphore de Platon, du mythe de la caverne. Effectivement, on s'arrache du fond de la caverne qui est peut-être la réalité quotidienne, mais qui à ce moment-là n'est que illusoire. Parce qu'on est comme un football dans les événements, on est pris dans les ombres et on ne voit pas que les ombres ne sont pas la réalité. Donc on sort de la caverne, on prend une distance et à ce moment-là, on voit les idées premières, le monde des idées dans la philosophie de Platon. Mais après, il y a quand même, et ça c'est très important, le retour dans la caverne. Et c'est peut-être plus ce moment-là que j'ai accentué. La philosophie est toujours faite de moments dialectiques et il faut voir les deux, effectivement. Donc vous avez raison de me faire ce reproche.
Oui, parce qu'il dit que l'accès à la liberté intérieure, par exemple, qu'on rencontre chez Husserl, Heidegger ou Jean-Paul Sartre, toutes ces manifestations-là sont des conversions, c'est-à-dire un arrachement à l'aliénation de l'inconscience. Et la philosophie ne peut progresser que comme ça. On ne voit pas là, justement, cette démarche quotidienne, vie pratique, café philosophique, c'est tout à fait autre chose. C'est une recherche, une sorte d'intériorité, d'essentialité. Et on voit même pas le retour du troisième temps de la dialectique, le retour à la vie concrète. On voit surtout cette manière d'être centré comme ça sur une connaissance intérieure. Conversion.
Oui, oui. Alors le terme conversion me fait un peu peur. Moi, je le trouve très fort. C'est un peu une manière de dire que la philosophie est ma religion. Effectivement, je le dirais moi-même, disons que d'une certaine manière, la philosophie est ma religion. Mais la philosophie n'est pas une religion. La philosophie est née à un moment donné. Je crois qu'Hadot a montré effectivement que c'est un des philosophes qui a montré combien la philosophie grecque est issue aussi d'une religion qui n'existe plus. Les Grecs disaient par Zeus, comme nous on dit par Dieu, j'entends par dit, et ils ont commencé à douter. Il y a une part de doute dans la philosophie. Et de ce fait-là, ce n'est plus vraiment une religion, ce n'est pas un dogme. Ou alors, si ça devient un dogme, alors là, la philosophie se porte mal. C'est quelque chose de très fragile, un équilibre très fragile entre la science. Ce n'est pas une science exacte, mais ce n'est pas non plus une religion. Peut-être que là, je corrige un peu le point de vue tel que vous le présentez de Hadot, mais je pense que les deux moments sont présents, forcément. Comme on a deux moments dans l'existence, on a le sommeil, on se retire et on revient. Et on a aussi un moment d'éveil où on prend distance et la prise de recul, le détachement en termes écartiens, la phairesis en termes grecs, c'est ça dont parle Pierre Hadot.
Il y aura ainsi, dit Hadot, un perpétuel conflit entre la tentative du philosophe pour voir les choses telles qu'elles sont, du point de vue de la nature universelle, et la vision conventionnelle des choses sur laquelle repose la société humaine. Un conflit entre la vie qu'il faudrait vivre et les coutumes et conventions de la vie quotidienne. Ce conflit ne pourra jamais se résoudre totalement. Voilà l'enjeu de notre débat. Les cyniques choisiront même la rupture totale en refusant le monde de la convention sociale. D'autres, au contraire, comme les sceptiques, accepteront pleinement la convention sociale en réservant leur paix intérieure. D'autres, comme les épicuriens, essaieront de recréer entre eux une vie quotidienne conforme à l'idéal de sagesse. D'autres, enfin, comme les platoniciens et les stoïciens, s'efforceront, au prix des plus grandes difficultés, de vivre philosophiquement la vie quotidienne et même la vie publique. Pour tous, en tout cas, la vie philosophique sera une tentative pour vivre et penser selon la norme de la sagesse. Elle sera exactement une marche, un progrès, en quelque sorte asymptote, vers cet état transcendant.
C'est très juste. Il y a, j'entends, c'est toute la situation de l'utopie par rapport à la réalité. Donc forcément, selon comment on pratique la philosophie, on peut devenir, au Moyen Âge, soit un saint, soit un hérétique. Il y a ce mouvement de retrait. Mais peut-être que là, je suis influencé par Maître Eckhart, qui au contraire dit peut-être plus encore que dans l'Antiquité, qu'il y a un autre moment. Il y a un moment où il faut revenir, et ça c'est mon souci. Amener donc pour moi, mais je crois pour beaucoup d'autres gens aussi, il faut ramener cet au-delà dans l'ici, sinon il n'y a pas de lien. Et je crois que vraiment le travail de la philosophie, c'est de ramener ce qui est au fond l'idéal, l'utopie, dans ce monde-ci, mais jamais entièrement. Le jamais entièrement est là parce qu'on est toujours en mouvement. Gadamer dit aussi, par exemple, philosopher, c'est être en désaccord avec le monde. Mais c'est bien d'être en désaccord avec le monde jusqu'à un certain degré, puisque cela permet de faire évoluer les choses. Si c'est un désaccord total, alors là, il y a rupture aussi. Mais c'est clair que la philosophie est née d'une tension, sinon Socrate n'aurait pas été condamné à mort.
Quoi qu'il en soit, la philosophie aujourd'hui donc a gagné les campus.
Là où les philosophies, et il y a une grande tension, parce qu'effectivement, s'il y a une philosophie en dehors de l'université qui se développe, c'est que la philosophie à l'intérieur de l'université peut-être ne correspond pas à ce que les gens attendent de la philosophie. Mais tout le monde cherche un idéal, et une des manières de le faire qui est très humble, justement, c'est de se dire, je ne détiens pas la vérité, je ne détiens pas la sagesse, mais j'y aspire, j'en suis amoureux. C'est pourquoi ce moment, au fond, émotionnel, qui est présent, à mon sens, dans la philosophie, et qu'il faut rappeler, et qu'on a souvent oublié, est important. Mais il est important dans ce double mouvement. Alors effectivement, ce que dit Ado est très juste, mais tous ces gens se sont retirés, mais certains ont essayé, en tout cas dans Platon c'est dit, une fois qu'on a l'éveil, le sage qui est sorti de la caverne, il faut qu'il retourne, et il faut que les autres en profitent.
Dans la cité.
Oui, dans la cité, voilà. Sinon c'est la tour d'ivoire.
Sans doute en est-il de même pour la médecine que pour la rhétorique.
Comment cela ?
Dans l'un et l'autre de ces arts, il faut analyser la nature, celle du corps dans l'un, celle de l'âme dans l'autre, si, au lieu de la routine et de l'usage, tu veux user de l'art pour procurer au corps, par des remèdes et par des aliments, la force et la santé, et faire naître dans l'âme, par des discours et des activités légitimes, la persuasion qu'on veut y transférer ainsi que la vertu.
Qu'il en soit ainsi, Socrate, c'est vraisemblable.
Penses-tu qu'on puisse suffisamment connaître la nature de l'âme sans la connaissance de la nature universelle ?
S'il faut en croire Hippocrate, descendant d'Asclépios, il n'est même pas possible de connaître le corps par une autre méthode.
Hippocrate parle bien, mon ami. Mais outre Hippocrate, il faut encore consulter la raison et examiner s'il s'accorde avec elle.
J'y consens.
Examine donc ce que disent sur la nature Hippocrate et la droite raison. Pour étudier la nature de quelque chose que ce soit, ne faut-il pas s'y prendre ainsi ? Se demander d'abord si la chose que nous voulons connaître et pouvoir aussi faire connaître à autrui est simple ou composée. Puis, si la chose est simple, examiner son influence, comment et sur quoi elle agit, comment et par quoi elle peut être affectée. Si au contraire, la chose est composée, il faut alors dénombrer ses parties, traiter chacune d'elles comme une chose simple, voir en quoi et comment elle agit, en quoi et par quoi elle peut être affectée.
Tu cours le risque, Socrate, de dire la vérité. Phèdre, Platon.
une consultation ?
D'une certaine manière, c'est effectivement une consultation quant au fond et quant à la forme. Alors, je veux d'abord dire quelque chose quant à la forme. Mmh. Il s'agit d'un dialogue, et ça, c'est quand même très intéressant, que les écrits fondateurs de la philosophie, qui sont de Platon, mais qui en mettent en scène Socrate, sont des dialogues. Et là, on en vient exactement à ce qu'on a déjà vu avant. Il y a toujours au moins deux points de vue dans un dialogue. Alors, est-ce que c'est deux personnes différentes, ou est-ce que c'est peut-être pas aussi le dialogue qu'on entretient avec soi-même quand on cherche la vérité? Alors, on dira oui, mais d'une certaine manière, c'est comme ça. Mais une autre partie de notre âme, peut-être l'autre moitié, nous dira non, c'est peut-être un peu autrement comme ça. Et tout cela fait partie de la fameuse maïeutique de Socrate. La maïeutique, c'est donc la technique pour accoucher les âmes. Et là, c'est quand même de nouveau, l'élément médical est quand même très présent. Socrate était fils d'une femme médecin. Il faut bien le dire, une accoucheuse. Une accoucheuse, c'est une sage-femme. On dit sage-femme, même. Vous voyez, une femme qui a le savoir et qui accouchait les corps. Donc elle accouchait, elle enfantait. Et son fils, Socrate, accouche les âmes. Et il le fait, donc quant à la forme, par un dialogue, et ce dialogue permet de mesurer le pour et le contre. C'est pourquoi c'est une méthode très prudente. Il y a toute une méthode dans la philosophie, mais qui part déjà simplement d'un constat qui est totalement paradoxal. C'est que, en fait, nous ne savons pas grand-chose. Même que c'est l'ignorance socratique. Dans un premier temps, pour pouvoir s'adonner à la philosophie, il faut reconnaître qu'on ne sait rien. C'est absolument époustouflant. Et une fois qu'on voit ça, une fois qu'on a accepté ça, on peut commencer à aller pas à pas et dégager des choses. Alors évidemment, dans la pensée de Platon, tous les philosophes ne la partagent pas. Il s'agit d'un idéalisme. Il s'agit d'accoucher l'âme et donc de créer une sorte de réminiscence, un souvenir du monde des idées. Et donc, dans cet au-delà, il y a une sorte d'utopie parfaite, peut-être, qui justement doit être ramené ici-bas aussi. Donc ça, c'est ce sens-là est aussi présent. Et cela se fait notamment par la dialectique. Et là, dans la dialectique, on mesure le pour et le contre, et petit à petit, l'âme accouche au fond d'une sorte de perception du juste milieu.
Alors je voudrais revenir sur cette idée, Wolfgang Wackernagel, que les philosophes présocratiques et après les autres philosophes, après Socrate, après Platon, étaient plus ou moins mages, devins, guérisseurs de l'âme et même du corps, étaient souvent thaumaturges.
Oui.
C'était des faiseurs de miracles, vous dites.
Alors là, je pousse un peu loin, on peut pas le dire de tous, oui. Mais j'ai effectivement accentué de manière un peu provocante, mais en me référant à ce que disait Diels Kranz dans la préface. La seule chose que je peux dire par rapport à ça, c'est que tout de même, le premier présocratique n'est rien d'autre qu'Orphée, vous imaginez. Alors quelle idée de mettre Orphée, l'enchanteur, hein, qui par ses chants ramène Eurydice, qui va dans l'au-delà, dans l'enfer, et qui ramène sa bien-aimée à la vie. Bon, ça n'a pas tout à fait marché, mais il a failli. Donc c'est un peu comme Asclépiade ou le Christ qui ressuscite les morts. Et l'orphisme, je crois que Diels a eu raison de mettre Orphée, les fragments orphiques, qui disent un peu « je suis un enfant du terre et de la ciel, mais mon origine vient des étoiles seulement ». Donc l'orphisme joue un rôle dans la philosophie grecque et aussi dans la pensée platonicienne. Toute la théorie de la réincarnation vient probablement de la religion orphique. Mais effectivement, Orphée, c'est plus le fondateur d'une religion, un mage, que pas Démocrite, au contraire, qui effectivement est un des premiers scientifiques, ou Pythagore. Encore que Pythagore avait aussi toute une vision quasiment mystique, comme on sait, c'est pas seulement l'inventeur du théorème dit de Pythagore. Un mathématicien et un mystique.
Ce qui veut dire quand même que philosophie et médecine étaient extrêmement liées.
Oui, je dirais finalement, je pense que la médecine est peut-être... Est-ce que la médecine a enfanté la philosophie ou l'inverse? Ça, je ne sais pas. Mais je dirais peut-être quand même que le besoin de guérir était antérieur. Mm-hmm. Si on part au-delà des Grecs, alors là, on n'a plus de texte écrit, j'entends, c'était des chamans ou quelque chose comme ça. Mais ils se sont posé des questions, donc il y a un lien entre les deux, dès l'origine. Et dans la philosophie antique, il est clairement présent, dans la mesure où certains de ces philosophes étaient médecins et d'autres étaient fils d'Asclépiade. C'est le cas d'Empédocle, qui a aussi apporté beaucoup à la médecine. La théorie des quatre éléments a ensuite donné la théorie d'Hippocrate, des quatre humeurs. dont la mélancolie. Donc là, on est dans l'automne, n'est-ce pas, où l'humeur, la ville noire prend le dessus, et que là, il faut un bon coup, une petite cure de philosophie.
Alors, Hippocrate, qu'est-ce qu'il dit? Pas pour la mélancolie, mais il dit, il faut évacuer les femmes enceintes s'il y a orgasme à 4 mois et jusqu'à 7 mois, mais moins vers ce dernier temps. Il faut ménager les fœtus avant 4 mois et après 7 mois. Dans les évacuations, faire sortir du corps les matières dont l'issue spontanée est avantageuse. En été, évacuer plutôt par le haut, en hiver, par le bas. Pendant la canicule et avant la canicule, les évacuations sont laborieuses. Évacuer par le haut les gens maigres qui vomissent facilement, évacuer par le bas ceux qui ont de l'embonpoint, etc. Donc ça, c'est tout le traité de l'art médical d'Hippocrate.
C'est
à la fois de la médecine, mais aussi de la réflexion sur le cosmos, sur le monde, sur nos relations.
Exactement. J'ai pas trop voulu approfondir Hippocrate, mais je suis content que vous le citiez. C'est effectivement à la fois, je pense qu'un certain nombre des choses qu'il dit sont encore justes actuellement, et d'autres, ma foi, il faut le prendre du point de vue littéraire, c'est un vrai poème, si j'ose dire, et d'autres sont peut-être quand même une sorte d'impression subjective de la situation de l'être humain dans le cosmos. Et évidemment, ils avaient une moins bonne connaissance scientifique, mais ils avaient quand même une sorte d'intuition, des relations.
Asclépios est mentionné dans les dernières paroles de Socrate dans le Phédon de Platon. À ce moment, il se découvrit le visage qu'il s'était couvert et prononça ces mots, les derniers qui soient sortis de ses lèvres. « Criton, dit-il, nous devons un coq à Asclépios. Vous autres, acquittez ma dette, n'y manquez pas. »« Oui, dit Criton, ce sera fait. Vois cependant si tu n'as rien d'autre à dire. » À cette question, il ne répondit plus. Mais après un bref moment, il eut une secousse. L'homme lui découvrit le visage. Son regard était immobile. Voyant cela, Criton lui ferma la bouche et les yeux. Platon, Phédon.
On a le philosophe qui fait appel au père de la médecine.
C'est un passage très émouvant, très beau, et en même temps très paradoxal, qui ne livre, je crois, ou ne livrera sans doute jamais ses secrets. Plus j'y réfléchis, plus au fond je suis perplexe quant à la situation. On voit bien que ça ne peut être que sérieux, parce qu'on peut déjà une fois se demander, est-ce que Socrate est encore une fois ironique dans les dernières paroles avant ça, de quitter au fond la communauté des philosophes? Ça, on peut évidemment se le demander. N'oubliez pas que Socrate a été condamné pour impiété. Il détournait les jeunes et
corruption
de la jeunesse, oui, et une certaine dose d'impiété. Et qu'est-ce qu'il fait? L'acte le plus pieux qui soit, il demande encore à ce qu'on sacrifie un coq à Asclépios. Alors, est-ce que c'était ironique? Je ne crois pas. Par rapport au thème de notre émission, où on peut évidemment pas tout couvrir, mais il me semblait important de lire ce passage, parce que c'est un paradoxe salutaire. Ça nous rappelle quand même aussi à nous que le fondateur de la philosophie est décédé et que nous sommes mortels. Donc la guérison est toujours relative. Même le Christ a ressuscité Lazare et d'autres, il a ressuscité des morts, mais pour combien de temps Lazare n'est plus avec nous? Je crois que la philosophie, elle est vraiment du côté, si on veut parler, mais vraiment du bout des lèvres en termes de médecine moderne, elle est de ce point de vue-là, plutôt du côté des soins palliatifs. C'est pas Superman qui est là. Superman, il est parti. Socrate est parti, il est mort. Il a bu la ciguë et il s'en est référé à Asclépios. Donc on viendra sur Asclépios un peu plus tard. Mais on constate déjà une des choses, c'est que la philosophie les philosophes sont mortels et ça nous rappelle notre propre mortalité. Donc voir aussi les limites au fond de ce qui n'est pas vraiment une science, c'est quelque chose qui est entre science et religion. Et en même temps, Socrate développe là un certain nombre d'arguments qui sont consolateurs. C'est des arguments qui sont en faveur de l'immortalité de l'âme. Bon, le corps est mortel, le corps est même le tombeau de l'âme. Donc la pensée platonique qui a énormément influencé le christianisme développe cette idée. La mort est une délivrance. Donc est-ce que on est d'accord avec Socrate ou pas? Ça c'est un autre point de vue, c'est tout le développement du Phédon. Mais en même temps, je crois que dans la perspective du thème qu'on s'est donné dans cette émission, qui nous dépasse tous un peu, il y a quand même ce paradoxe salutaire à poser. C'est que quant à la vie physique, nous sommes mortels. Et c'est un paradoxe dans une émission où on se demande, pose la question, la philosophie peut-elle guérir? Je crois qu'il faut se rappeler ce paradoxe.
Ah, elle ne peut pas nous guérir de la maladie. Alors est-ce qu'elle peut nous guérir de la maladie fondamentale, à savoir que nous sommes mortels?
Visiblement non, justement. Alors quel est l'enjeu? Apparemment, la vie humaine dure à peu près 100 ans.
Elle peut nous guérir de la peur de la mort.
Oui, voilà. Donc c'est un soin palliatif. Et peut-être dans une certaine mesure, elle peut mieux nous faire vivre. Donc ça relativise quand même énormément la réponse qu'on pourrait donner en fin d'émission, ou que peut-être chacun va plus ou moins se donner à lui-même après avoir suivi cette émission. Il faut quand même relativiser les choses. Et en ce sens-là, je pense que c'est important qu'on lise ce passage. Et le deuxième élément, justement, c'est Asclépios lui-même. Au fond, la première fois que j'ai lu ça, j'avais aucune idée d'Asclépios. Je me dis, d'ailleurs, c'est un nom un peu curieux, Asclépios. Esculape, c'est qui ça? Pourquoi est-ce que dans les dernières paroles, Socrate s'adresse à cet Asclépios dont aujourd'hui, je pense, la plupart d'entre nous, on n'a aucune idée. Et on connaît Hippocrate, on connaît Chiron peut-être, parce que c'est le père de la chirurgie,
centaure, oui.
Le centaure, aussi personnage étrange. D'ailleurs, toute cette mythologie, on comprend peut-être qu'elle ait évolué. Hein. J'entends le christianisme et ensuite les époques suivantes ont quand même placé un filtre là-dessus. Dans un filtre, on essaye de retenir l'essentiel et on laisse d'autres choses de côté.
Alors, il y a Asclépios, le père de la médecine.
Oui.
Lui, il est fils d'Apollon et de la nymphe
oui.
Coronis, c'est ça?
C'est un fils de Dieu, comme
c'est
le Christ.
Fils de Dieu, oui.
Il y a des ressemblances. Il est fils de Dieu, et Apollon, ça veut dire le nom pluriel, le Dieu unique. Donc, intéressant aussi de voir qu'il n'y a pas vraiment tant de différences entre différentes religions, et que même le christianisme a repris des éléments, tout en apportant un filtre qui peut-être a simplifié les choses pour les gens. Mais il est effectivement fils d'une nymphe. C'est l'aspect un peu étrange où on comprend aussi que les Grecs ont commencé à douter de leur religion. Et d'ailleurs, de façon salutaire, puisque c'est ça qui a enfanté la recherche scientifique. C'est à partir du moment où on a commencé à douter des dogmes que s'est développée l'attitude scientifique qui, jusqu'à nos jours, remet toujours en cause les théories. On élabore des théories, on avance, et peut-être dans 5 ans, on aura de nouvelles théories. Et c'est ça les progrès de la science. Et cela, c'est né de la philosophie. Donc, la philosophie est née de la médecine, et la science est née de la philosophie, si on peut dire.
Asclépios, si je reviens à lui, il a été éduqué par Chiron, donc le centaure, qui est le père de la chirurgie. Oui. Et puis, il a enfanté Hygie.
Exactement, sa fille, c'est l'hygiène, très juste.
Donc il y a toute cette filiation,
oui.
Là, à la fois de la médecine et de la réflexion.
C'est peut-être simplement poétique, mais c'est quand même beau de se dire qu'une bonne partie des termes qu'on utilise aujourd'hui, qui sont extrêmement sérieux, parce qu'il y a comme tout un enjeu dans l'hygiène, ça peut aider les gens à vivre plus longtemps, comme on sait. J'entends l'hygiène, effectivement, peut rallonger la vie humaine, ou empêcher qu'elle soit abrégée inutilement par une infection, par manque d'hygiène, justement par manque de la fille d'Asclépios. Et Chiron est aussi un personnage, c'est à la fois poétique, j'entends, c'est une belle image poétique, un centaure, quelqu'un qui a un corps de cheval, et le haut du corps est humain. C'est à la fois poétique et effrayant. Mais en fait, je trouve que ça dépeint assez la réalité de la chirurgie. Parce que dans la chirurgie, on fouille dans la chair, hein, on fouille dans l'animalité. Et de ce côté-là, je trouve que peut-être il y a quand même quelque chose Bien que je pense pas qu'un chirurgien aujourd'hui apprécie beaucoup qu'on le compare au centaure. Laissons ça peut-être plus du côté du mythe et de la poésie.
Il fouille. Je pense pas qu'il fouille.
Non, il fouille. Ah, il fait un acte extrêmement précis avec laser et tout.
Oui, ils disent à quel point c'est difficile la première fois, par exemple, quand on les reçoit ici, la première fois qu'on essaie de couper une peau, on n'appuie pas assez, on n'ose pas. C'est cette difficulté. Donc, je pense pas qu'il fouille, mais.
C'est peut-être là où on mesure, grâce à Chiron, la plus immense distance qu'a parcouru la médecine depuis Chiron, et qui pourtant porte encore ce nom. C'est en ce sens-là, la philosophie, l'histoire de la philosophie, c'est aussi voir d'où on vient, et ça donne des repères, et on voit aussi comment le monde a changé.
Mais alors, est-ce que le Christ va être proposé comme, justement, le nouvel Esculape aux foules, vous le dites, hein?
Tout à fait.
C'est super Asclépios.
C'est super Asclépios, oui. Parce que il y a au moins 50 passages dans la Bible où le Christ non seulement guérit les malades, il a guéri des foules, mais et plus que cela, et pas seulement lui, mais aussi les apôtres. Donc les apôtres sont un peu les asclépiades du Christ. Et ça a eu un effet immense, parce qu'effectivement, d'une certaine mesure, apparemment, il y a eu quelque chose. J'entends, il y a eu, je connais pas les statistiques de Lourdes, mais les guérisons miraculeuses, il y en a, elles sont très rares. Mais il y en a, donc là je ne peux pas me prononcer, ça dépasse
le domaine. Il y a des phénomènes, des facultés d'auto-guérison du corps aussi.
Mais c'est ça le miracle de la nature auquel assiste le médecin et peut-être aussi le prêtre et peut-être aussi le philosophe.
Est-ce qu'il y a eu des guérisons philosophiques dans l'Antiquité?
Oui, oui j'allais le dire, en tout cas de l'âme. Physique peut-être aussi, parce que c'est une histoire de morale du patient. Les médecins vous parlent de placebo. Placebo, c'est plaquette. C'est ce qui plaît. Mm-hmm. Donc, si on amène quelque chose qui est une sorte de plaisir, on importe un vouloir vivre. Et je crois que là, les médecins seront d'accord. Je suis quand même prudent, je suis pas médecin. Mm-hmm. Je suis intéressé aux études de médecine, mais je suis pas médecin. Alors qu'en philosophie, de toute façon, c'est pas un problème, parce que, entre parenthèses, personne ne sera pourchassé pour exercice illégal de la philosophie. La philosophie est pour tous, qu'on le dise bien. Mais donc, dès qu'il s'agit de médecine, il faut quand même être prudent. Mais je crois quand même que si le patient...
Si, parce que la philosophie peut se gourouiser,
Oui, il y a un risque, mais moindre que la religion. Là, je proteste quand même. Je pense parce que dans ce cas, c'est une philosophie qui devient malade. On appellerait ça une dérive sectaire, n'est-ce pas?
Mais Lucrèce affirme avoir été guérie par la philosophie d'Épicure.
Voilà, c'est ça.
Comment s'est fait cette guérison?
Alors Lucrèce était un homme profondément angoissé. Et il était angoissé d'une part par la mort, il était angoissé par la religion, parce que la religion a aussi des aspects terribles. L'idée que les dieux se mêlent de nos affaires, mais en fait il se passe simplement statistiquement quand même beaucoup de malheurs parmi les hommes. Donc si les humains imaginaient la vie dans l'Antiquité, enfin aujourd'hui aussi, suivant où on n'a pas toujours... On peut être heureux d'être sur Terre et d'y voir assez clair, et il se passe quand même des choses, on perd nos parents et toutes sortes de drames. Et si en plus, dans une religion, on vous dit que c'est les dieux qui commandent ça et qui vous envoient des malheurs pour vos péchés, etc., ça angoissait Lucrèce, et la philosophie d'Épicure, dit-il, l'a guéri de ses angoisses. Par rapport à la mort, c'est par une assertion qui est à la fois terrifiante mais géniale, c'est de dire tant que nous sommes, la mort n'est pas, et quand la mort est, nous ne sommes pas, nous ne sommes plus. Donc c'est l'inventeur du carpe diem, de mettre en valeur le bonheur, il est dans l'instant présent. Il n'y a que ce moment où nous sommes ici, là maintenant, Francesca, vous et les auditeurs, c'est le moment qui compte. Et dans cet instant, il faut voir ce qui est à notre portée, ce qui est plus à notre portée. Et la peur de la mort, si on était maintenant pris d'une panique terrible par rapport à une mort imminente, cela nous gâcherait cet instant. Peut-être d'une certaine manière, ça le valoriserait aussi, parce qu'on dirait, cet instant est tellement précieux, vivons bien. Demain, nous serons morts, alors vivons le mieux possible, soyons joyeux, et goûtons ce moment où nous sommes en vie, c'est comme quelque chose de merveilleux. Donc, paradoxalement, Épicure introduit quelque chose qui rejoint la perspective des stoïciens qui sont à l'opposé. Et Lucrèce dit avoir été guéri de ça, et... aussi de la peur des dieux, disant qu'ils ne se mêlent pas, ils sont tellement parfaits. Donc, c'est pas une religion totalement matérialiste, mais ils se mêlent pas des êtres humains. Et après, toute une analyse des désirs, des plaisirs qui peuvent engendrer la souffrance. Tout cela a guéri Lucrèce, dit-il. Et en remerciement à cela, il a écrit son magnifique poème sur la nature des choses.
maintenant, inspirez-moi, divinité protectrice des poètes, muse qui savait toutes choses et que ne peuvent tromper les voiles de la vaste antiquité. Apprenez-moi de quelle contrée le fils de Coronis fut amené dans l'île qu'embrasse le Tibre, et comment Rome le mit au nombre de ses dieux.
Jadis, une contagion cruelle avait corrompu l'air du Latium. Ses habitants erraient comme des spectres languissants. Fatigués de funérailles, voyant tous les efforts humains inutiles et tout l'art de la médecine impuissant, ils implorent le secours céleste et envoient à Delphes, située au milieu du monde, consulter l'oracle d'Apollon. On invoque une réponse favorable. On le prie de sauver les Latins et de finir les malheurs de Rome. Alors le temple et le carquois du dieu, et le laurier qui le couronne, tout tremble à la fois, et du fond du trépied mouvant sort une voix qui remplit tous les cœurs d'épouvante.
« Romain, dit-elle, ce que vous demandez ici, vous pouviez et vous devez le demander dans un lieu plus près de vous. Dans le deuil qui vous afflige, ce n'est point d'Apollon que vous avez besoin, mais du fils d'Apollon. Allez sous d'heureux auspices, et appelez mon fils dans votre ville. »
Quand le Sénat Auguste a connu la réponse de l'oracle, il s'informe du lieu où l'on adore le jeune fils d'Apollon, et des ambassadeurs partent pour Épidaure. Dès que le vaisseau qui les porte a touché le rivage, il se présente devant le conseil des Grecs. Il le prie de donner à Rome ce dieu dont la présence dans l'Ausonie doit mettre un terme à tant de funérailles, et font connaître l'oracle infaillible qu'il a prononcé.
Les avis des Grecs sont partagés. Les uns pensent qu'on ne peut refuser le secours que Rome demande. Les autres, en plus grand nombre, conseillent de ne point priver Épidaure d'un si puissant appui et de ne pas livrer le dieu qui la protège.
Tandis qu'on délibère, le crépuscule succède aux derniers rayons du jour et la nuit enveloppe la terre de ses ombres. Le dieu salutaire, ô Romain qui vient le demander, t'apparaît au milieu de ton sommeil. Tu le vois tel qu'il est dans son temple, tenant un bâton champêtre dans sa main gauche, de la droite caressant sa longue barbe, et d'une voix paisible il t'adresse ces mots. « Cesse de craindre, j'irai. Je changerai les traits sous lesquels on m'honore. Regarde ce serpent dont les nœuds embrassent mon bâton. Attache sur lui tes regards, pour bien le reconnaître. Je prendrai sa forme, mais je serai plus grand et tel qu'il convient au corps céleste de se montrer. » Soudain le dieu disparaît avec la voix. Avec la voix et le dieu, le sommeil a disparu, et le jour suit la fuite du sommeil.
On resterait bien dans ce chant de grillon, là, non?
C'est extrêmement agréable, et cela souligne bien le fait que nous sommes dans une nuit d'été, et je dirais même plus dans le songe d'une nuit d'été. On n'est pas du tout dans la science, là, on est dans le songe. Mais, chose curieuse, donc, le culte d'Asclépios, qui se célébrait à Épidaure, avait pour élément central le sommeil et les rêves. Mais après tout, Freud a écrit beaucoup plus tard une Traumdeutung, une interprétation des rêves. Et en ce sens-là, Freud renoue aussi avec la tradition d'Asclépios, et il le savait certainement. Donc là, dans l'Antiquité, on pensait qu'une des manières de trouver la guérison, c'est d'aller à Épidaure. Il y avait encore d'autres sanctuaires dans le monde antique, mais on allait à Épidaure et on dormait dans le temple. Et c'est dans le sommeil et dans le rêve qu'on trouvait la guérison. Bon, là, je crois que d'une part, le sommeil, tout médecin sera d'accord avec nous aujourd'hui. Quand on est malade, rien qu'une grippe, je crois que le meilleur remède, c'est déjà beaucoup dormir. Bon, des fois, on prend encore quelques autres médicaments en plus pour faire transpirer, mais une des choses qui permet à la nature, donc la nature de notre corps, de trouver la guérison, c'est d'avoir du repos. Donc, de ce côté-là, ils étaient déjà pas si loin de la réalité actuelle, qui est évidemment plus, entre guillemets, scientifique. Et ensuite, dans le songe, il voit le dieu, et peut-être que le dieu lui donne donc des éléments qui permettent une guérison miraculeuse, mystique, philosophique ou scientifique. Alors, il y a cette image qui, surtout pour la culture chrétienne, est inquiétante, celle du serpent. Asclépios est là, il a une barbe, comme le Christ. J'ai vu une image d'Asclépios qui date d'une statue de Mantoue du deuxième siècle de notre ère, où on voit Asclépios avec une barbe, même une sorte d'auréole de saint. Il a vraiment l'air du Christ. à part qu'il porte dans sa main, donc il a une main sur le cœur, et de l'autre, il tient un bâton noueux, un bâton rustique, avec ce serpent qui est enroulé autour. Mais là, peut-être, bon, on est dans la poésie, on est d'accord, on pourrait peut-être quand même dire que les prêtres d'Asclépios ont vu en rêve l'ADN, puisque l'ADN ressemble exactement à ça. Bon, là, on est dans la science-fiction, on est d'accord, ou dans la poésie, avouons-le. Mais en même temps, on voit ces éléments, et peut-être il s'agit quand même de rappeler que le serpent est un symbole ambivalent. Dans le christianisme, c'est uniquement devenu le symbole du mal, mais peut-être quand même se poser la question si le serpent n'est pas simplement un symbole ambivalent, comme il l'était dans l'Égypte ancienne. Le symbole aussi, ben, c'est pas seulement l'ADN, c'est les spermatozoïdes. Le serpent transmet la vie. Voilà.
L'aurore avait chassé les astres de la nuit. Incertains de ce qu'ils doivent résoudre, le peuple et ses chefs s'assemblent dans le riche temple du dieu. Il le prie de faire connaître par des signes célestes le séjour qu'il veut habiter. À peine ils ont fini de prier, caché sous la forme d'un serpent, le dieu lève sa tête émaillée d'or et annonce sa présence par de longs sifflements. Il s'avance, et la statue, et l'autel, et les portes, et le marbre du parvis, et le faîte doré du temple sont ébranlés. Il s'arrête au centre, se dresse et s'élève de la moitié de son corps, et promène autour de lui des yeux étincelants. Le peuple frémit épouvanté. Le prêtre, dont des bandelettes de lin ceignent la tête, a reconnu la divinité et s'écrie « c'est le Dieu lui-même, mortel ici présent, adoré et prié, et toi, divinité bienfaisante, que ton aspect nous soit propice et protège les peuples qui révèrent tes autels. »
Chacun adore et répète les paroles du pontife. Les Romains invoquent Esculape et le prient de la voix et du cœur. Favorable à leurs vœux et pour annoncer qu'ils sont exaucés, trois fois il agite les écailles de sa crête et trois fois vibré, sa langue fait entendre trois sifflements. Alors, glissant sur les degrés du temple, il tourne en arrière sa tête, regarde les autels antiques qu'il va abandonner et salue sa demeure et son temple accoutumé. Son corps immense serpente et roule en cercle sur la terre jonchée de fleurs. Il traverse la ville et arrive au rempart qui défend le port. Il s'arrête. Ses regards sereins s'attachent sur la foule qui l'a suivi avec respect, et il monte, en rampant, sur le vaisseau latin. Le navire sent le poids de la divinité. Les Romains se réjouissent de le voir pressé par un dieu. Ils immolent un taureau sur le rivage et lèvent l'ancre qui retient la nef couronnée de fleurs.
Un vent léger enfle les voiles. Le dieu se redresse, repose sa tête sur la poupe et regarde les ondes. Le vaisseau, sous la douce haleine des zéphyrs, vogue sur la mer d'Ionie, et au lever de la sixième aurore, il fend les flots qui baignent l'Ausonie. Il laisse derrière lui le temple de la Sibylle de Cume, Baïès et ses fontaines brûlantes, Literne dont la campagne est couverte de lentisques, le Volturne qui roule tant de sable avec ses flots, Sinuès où l'on voit tant de blanches colombes, Minturne et son air pesant, Cayette où le pieux aîné ensevelit sa nourrice, Formium où régna le cruel Antiphate, Thracas qu'un marais environne, et la terre de Circé et le rivage resserré d'Antium.
Les Romains tournent leurs voiles vers ce rivage, car les flots de la mer étaient alors trop agités. Le dieu déroule les cercles de son corps, se replie en immense volume, s'étend, et entre dans le temple de son père, élevé sur ses bords. Quand le calme est rétabli sur l'onde, le dieu d'Épidore quitte les autels d'Apollon, et après avoir joui de l'asile paternel, il sillonne le sable de sa bruyante écaille, rampe vers le navire, s'appuie sur le gouvernail et repose sa tête sur la poupe. Jusqu'à ce qu'abordant Castrum, au champ sacré de Lavinium, il se montre à l'embouchure du Tibre.
C'est là que tout un peuple, que les hommes et les femmes et les vierges qui gardent les feux de Vesta, accourent au-devant du dieu et le saluent de joyeuses clameurs. Tandis que le navire remonte rapidement les eaux du fleuve des autels sont dressés sur les deux rives. Partout l'encens brûle, des nuages de parfums s'élèvent dans les airs qui retentissent. Et la victime frappée échauffe le couteau de son sang. Enfin, le navire entre dans Rome, reine superbe du monde. Le serpent s'élève en rampant au haut du mât, promène autour de lui sa tête et regarde quelle demeure il devra choisir.
Le Tibre dans son cours se divise en deux parties. Il laisse au milieu de ses flots un espace de terre qu'environne deux bras d'égale largeur et forme une île qui porte son nom. C'est là qu'en descendant du vaisseau latin, le serpent se retire. Il reprend sa figure céleste. Sa présence met fin au deuil du Latium et il devient le dieu conservateur de Rome. Ovide, les Métamorphoses.
Revenons de ce voyage dans le Latium avec Ovide, Wolfgang Wackernagel. Voilà, on a cette belle description là, dans les métamorphoses.
Oui. La Sibylle, Circé, la terre jonchée de fleurs. C'est tout un voyage dans le génie du paganisme, mais il faut dire aussi dans le délire du paganisme, il y a les deux. On serait, enfin, pour ma sensibilité, je serais comme nettement moins d'accord avec les sacrifices sanglants. Mais par contre, les encens, les fleurs et tout ça, ça me transporte. Et puis, ça donne quand même toute une émotion de voir cet univers qui a existé, englouti, et que Ovide retranscrit, retraduit, évoque de manière aussi émouvante. Et il parle, en fait, d'un emplacement qui est toujours là. À l'époque où je l'ai vu, j'étais pas conscient, en fait, de son importance, mais il y a une île tibérine, il y a une église, Saint-Barthélemy. Aujourd'hui, c'est une église. Et cet endroit est encore dédié aux hôpitaux, c'est un peu le quartier des hôpitaux à Rome. L'église, paraît-il, a des éléments, bon, ça s'est progressivement estampé, mais il y a encore des traces, où il y avait des traces, notamment sur des gravures de Piranèse. On voit encore bien la forme de l'île que les Romains ont accentuée, elle a la forme d'un vaisseau. On a l'impression de voir un vaisseau qui avance éternellement, puisque le Tibre coule et le vaisseau s'avance vers Rome. Et sur le côté, d'un côté, on voyait encore le visage barbu d'Asclépios avec son bâton noueux et puis le serpent. Mais aujourd'hui, on ne le voit plus, donc ça s'est estompé. Mais c'est très émouvant de voir que quelque part, ce récit poétique a aussi une part de réalité. Ça décrit aussi la grande tolérance religieuse des Romains qui accueillait toutes sortes de cultes, dont plus tard le christianisme. Et il faut quand même reconnaître que si le christianisme n'avait pas été importé à Rome, ce ne serait pas devenu une religion aussi importante du monde antique, la religion majeure, et d'ailleurs le siège du nouveau culte qui est en fait le super Asclépios, est à Rome, comme chacun le sait. Pas loin d'ailleurs de l'île Tibérine, un peu plus haut, vous avez le Vatican, la colline du dieu Vates, qui est le dieu de la parole, est devenue le Vatican.
Si on laisse de côté la guérison des corps et les enfants d'Asclépios et les enfants d'Hippocrate, on peut se retourner vers les philosophes et vous dites, Wolfgang Wackernagel, qu'il apparaît que dans des courants très divers et qui sont parfois même contradictoires, comme par exemple platonisme et épicurisme, l'éthique d'Aristote, le stoïcisme d'Épictète ou de Marc Aurèle, chaque fois on voit que la guérison philosophique a pour objet et propose des remèdes aux passions de l'âme.
Exactement.
Ça, c'est la grande maladie.
Oui.
La question que je vous posais, de quels maux souffrons-nous, c'est un peu ce que dit la philosophie antique, on souffre des passions de l'âme.
Exactement. Il s'agit, ça je crois que c'est ce qui est déjà dit chez Démocrite. Et ensuite, jusque dans l'Antiquité tardive, différentes écoles philosophiques proposaient, en tout cas incluaient dans leur programme, des moyens de... Je ne sais pas s'il faut dire lutter contre, mais en tout cas de tempérer les passions de l'âme. J'ai oublié Aristote, il faudrait que je le mentionne aussi, puisque l'éthique à Nicomaque, si on la lit en détail, on trouve aussi des éléments qui touchent à ce domaine. Bien sûr, l'éthique est là aussi pour, d'une part, évidemment, si c'est l'éthique, la morale, harmoniser les relations dans la société, mais d'abord au niveau individuel. Contrôler, si j'ose dire, les passions de l'âme. Alors, Épicure propose l'ataraxie. Et au fond, l'ataraxie, alors même qu'il est matérialiste, donc il y a quelque chose de surprenant. Épicure est matérialiste, alors on s'imagine que la suprême valeur pour Épicure, c'est le plaisir. On les a traités de pourceaux, ces pourceaux d'Épicure. Mais en fait, le suprême plaisir, justement, c'est l'ataraxie, donc c'est l'absence de passion, la tranquillité de l'âme, et pas le fait de se livrer à des orgies. Donc bizarrement, on réalise que Épicure n'est pas du tout épicurien, comme des fois on le comprend quand on les dénigre. C'est au contraire une analyse très précise des plaisirs et aussi des souffrances qu'un excès de certains plaisirs peuvent apporter. C'est pourquoi Épicure divise de manière très attentive les désirs, les plaisirs en plaisirs naturels et nécessaires, comme manger, boire, dormir, naturel et non nécessaire, il ne le dit pas, mais on suppose que c'est le sexe notamment, et puis évidemment les plaisirs qui sont ni naturels ni nécessaires et dont il faut se méfier. Et évidemment, le plaisir de manger beaucoup amène un plus grand déplaisir, à savoir une nuit d'insomnie et de douleurs de toutes sortes. Donc évidemment, on va limiter le plaisir du fait de manger, on mangera plutôt des choses saines, comme dit Bircher Müsli. Et effectivement, c'est pour ça qu'on les appelait des pourceaux, parce qu'ils mangeaient des glands, c'était les premiers Bircher Müsli. Alors on pourrait faire une même description, que je vais être moins développée pour le stoïcisme.
Moi je suis allée chercher du côté de Marc Aurèle.
Magnifique, j'ai bien pensé que...
Oui,
Pierre Hadot, je vous écoute. Oui.
Pour la citadelle intérieure, et voilà. Il dit justement que les passions, on peut les vaincre par la délimitation du moi. Alors là, on est près de la sphère d'Empédocle, justement. Mmh. Et il dit, c'est l'exercice fondamental, il faut toute une transformation de notre conscience, conscience de nous-mêmes, de notre rapport avec notre corps, avec les biens extérieurs, une transformation de notre attitude à l'égard du passé, de l'avenir, une concentration sur le moment présent, une ascèse du détachement, la reconnaissance de la causalité universelle, celle du destin, et puis il faut la découverte du pouvoir que nous avons de juger librement. Et ça c'est très important, c'est-à-dire que dans le fond on guérit en donnant aux choses la valeur que nous voulons leur donner. Et ça me semble très important comme remède. Alors il donne des exercices pour arriver comme ça à délimiter le moi. Il dit il faut analyser les composants, il faut analyser le corps, le souffle vital, l'âme qui anime le corps et l'intellect, la faculté de juger. Alors il dit, il faut bien savoir que le corps et le souffle, ça c'est donné par le destin. Mais il y a différents cercles qui entourent le moi, qu'il faut apprendre à connaître et à délimiter, les autres, le passé, l'avenir, les émotions, et puis les événements. Voilà, alors c'est très intéressant, dans la citadelle intérieure, Pierre Hadot montre à quel point justement la santé passe par cette délimitation du moi chez les stoïciens.
Oui, délimitation et étendue, je suis très content que vous parliez de Marc Aurèle. Au fond, du point de vue sociologique, on peut aussi voir l'étendue de cette philosophie, puisqu'elle est pour les empereurs et les esclaves. Si je me souviens bien, Marc Aurèle était lecteur d'Épictète, qui était un esclave affranchi. Épictète, qui a d'ailleurs aussi été traduit, édité, préfacé par Pierre Hadot notamment. Donc on lui fait beaucoup de publicité dans cette émission. Épictète, je crois, antérieur à Marc Aurèle, et a jeté les bases au fond de la pensée de Marc Aurèle, en disant aussi déjà des limitations, il faut savoir ce qui est en notre pouvoir et ce qui est au-delà, dans le manuel d'Épictète. Donc aussi une lecture à recommander du côté des stoïciens.
Pour guérir
ou pour une certaine guérison. Trouver le bonheur.